on retrouve notre rendez-vous avec Jean-Louis Caribou pour les personnages extraordinaires de l'œuvre de Giono. Bonjour Jean-Louis.
Oui, bonjour Odile.
Alors aujourd'hui, de qui nous parlez-vous?
Alors, la dernière fois, nous avions évoqué le personnage de Bobby et de Jourdan dans le roman de Giono Comme à joie demeure. Et le personnage extraordinaire dont il était question, c'était Bobby, un poète qui arrive sur le plateau Grémone, qui est un plateau situé quelque part en Haute-Provence, sur lequel sont installées cinq fermes, les unes loin les unes des autres. Et le paysan Jourdan, qui est en train de labourer en pleine nuit, il fait la rencontre de cet homme qui surgit de on ne sait pas où, il sort de... en pleine nuit, donc c'est mystérieux déjà, et ils font connaissance. Et depuis longtemps, Jourdan attendait la venue de l'homme, parce qu'il se disait quand même, la vie, ça peut pas être cette répétitivité de ce que je fais tous les jours, chaque année pareil, mon père faisait la même chose, mon grand-père aussi, labourer pour semer, pour récolter, pour faire du pain, pour manger, donc il doit y avoir d'autres raisons supérieures d'exister, et il se pose un petit peu des questions d'ordre existentiel, métaphysique, même si c'est pas en ces termes qui se les pose, et malgré tout ça le préoccupe de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on fait sur Terre, il doit avoir d'autres raisons quand même d'être là, et il avait entendu parler que de personnes qui allaient soigner des lépreux loin dans des pays étrangers, soigneurs de lépreux, oh mais ça alors c'est extraordinaire, et alors cet étranger qui arrive en pleine nuit pendant qu'il laboure, ils font connaissance, il demande, tu as déjà soigné des lépreux? Alors l'autre il est un peu interloqué, non mais je peux les soigner. Mais tu sais ce que c'est? Il lui demande-t-il. Tu sais ce que c'est la lèpre? Alors le paysan Jourdan, non. Eh bien écoute, la lèpre c'est de l'amour sans emploi. Ah ben ça, alors le paysan Jourdan, il est complètement ébloui parce qu'il avait jamais entendu des propos pareils. Cette réponse, c'est une réponse de poète, c'est un professeur d'espérance, c'est extraordinaire. Donc ils font connaissance, une amitié s'installe, et le paysan Jourdan lui propose de venir boire le café, le jour se lève à la maison, donc ils vont boire le café, et puis Bobby décide de rester quelques jours à la demande de Jourdan. Donc il s'installe là, dans cette ferme de la Jourdane, sur le plateau Grémone, et dès le lendemain, Jourdan, ah, il est tout fier, il a trouvé son messager, c'est cet homme qu'il attendait depuis longtemps, ce poète merveilleux qui lui apporte une autre manière de voir les choses, et il lui propose, écoute, nous sommes cinq fermes sur le plateau Grémone, je te propose, on va faire la connaissance, je vais te les présenter, on va rencontrer les habitants du plateau Grémone, et les voilà partis. Donc, on va lire des passages concernant les trois premières fermes, où chaque fois il va se passer un miracle. Alors, la première ferme. Nous commencerons, dit Jourdan, par le jas de l'érable près de l'étang. « Oh, Randoulé !» cria Jourdan. Une ombre sortit du brouillard. « C'est toi, Jourdan ?»«
C'est moi. »
C'était un homme court et gros, avec plusieurs mentons en collier. Il avait de petits yeux de porc et une bouche sanguine sous la moustache. « On ne savait pas quoi faire de ce temps, » dit Jourdan. « On a dit, on va voir le pays. Je suis avec mon cousin. »«
Venez entrer, » dit Randoulé.
Et il marcha devant le cheval. La maison avait une petite façade. Dedans, on imaginait la pièce en longueur, mais elle était courte et embourbée là-bas au fond par un grand lit tout défait, couverture relevée, drap gris, matelas creux.
« Honorine, voilà Jourdan !» dit Randoulé.
Honorine était penchée dans la fumée d'une chaudronnée de pommes de terre. Elle se redressa et s'essuya les mains.
« On n'attendait rien, » dit-elle.
« C'est ce temps, » dit Jourdan, « on se disait, quoi faire ?»«
Prenez le feu, » dit Randoulé, « approchez-vous. »
Honorine avait ouvert le placard.
« Ne vous dérangez pas, » dit Jourdan.
« On ne se dérange pas, » dit Honorine, « mais vous allez bien boire un petit coup. »
Ils s'approchèrent de la table et Honorine avait placé les verres à la file. Elle versa la liqueur de fenouil.
« Alors, comme ça, » dit Randoulé, « Eh oui, dit Jourdan.
C'est ton cousin ?
Oui, un cousin, dit Jourdan. On a toujours été très fraternels.
Oh, ça vaut souvent mieux, dit Honorine. Buvez.
Qu'est-ce que c'est ? Demanda Jourdan.
Ah, ça, dit Honorine, c'est ma liqueur.
Un secret.
Malin qui devine.
Bobby goûta lentement.
Il y a du fenouil, dit-il.
Ça, c'est facile, dit Honorine.
Bobby but une gorgée. Du serpolet, un peu de genièvre et...
Attendez.
Il avait à ce moment-là son sourire. Jourdan se dit, ça commence.
Bobby se lécha les lèvres.
Vous avez, dit-il, ouvert une galadieuse. Au milieu est une petite boue noire. Vous avez pris ça du bout du couteau et peut-être deux, pas plus de trois.
Deux et demi, dit Honorine dans un souffle. Ça alors ?
Comme cousin, dit Randolé, celui-là. Jourdan avait pris un petit air heureux qui voulait dire « Eh oui, c'est comme ça que nous sommes !»
Remarquez, dit Bobby, que ça n'est pas difficile. Il suffit d'avoir goûté une fois la galadieuse pour la reconnaître toute sa vie.
Mais votre grande découverte, madame Honorine, c'est de l'avoir mariée avec le serpolet, le fenouil et le genièvre. Ça, c'est des plantes joyeuses qui font soleil, nuages et joie de mai. La galadieuse, surtout le cœur, c'est noir comme le sommet de la terre. Il y eut un silence et Randoulé demanda « Pardon ?»«
Oui, dit Bobby. Je dis qu'il y a des choses qui, par leur goût ou leur couleur, quand on les a sur la langue ou dans les yeux, font joie et d'autres qui font deuil. Trois choses de joie, une de deuil, ça fait vivant. »
Donc voilà pour la première ferme où ce Bobby arrive à trouver le secret de la composition de cette liqueur. Donc ils sont éberlués, et Jourdan, bien sûr, il est fier.
Ah, c'est mon cousin, hein, c'est mon cousin. C'est pas du tout son cousin, mais il est extrêmement fier.
Donc ils vont s'approcher, avec leur carriole et leur cheval, de la deuxième ferme. Et alors là, c'est le père Karl qui ouvre. « Quelle nouvelle ?» dit Karl.
De son tic familier, il se passait la main sur le crâne.
« Rien de grave, dit Jourdan. On ne s'arrête même pas. »
L'homme vint jusqu'à la voiture.
« Si, dit-il, une minute, restez.
C'est mon cousin, dit Jourdan. »
La cuisine était spacieuse et nette. On n'en voyait qu'une large table en bois, frottée jusqu'à l'os, et devant l'âtre, un bon carré de dalles luisantes, propres, sans une touffe de cendre. Le reste était dans l'ombre. Près du feu, madame Karl reprisait un tricot. Le fils Karl tâtait ses mains avec son doigt et il essuyait la pomme de sous le pouce pour voir si le cal était bien dur. Il passait son doigt sur les durillons et les petites verrues.
« Un air de feu seulement, dit Karl. Asseyez-vous.
»« Voilà bien longtemps qu'on n'a pas vu Marthe, dit madame Karl. Vous auriez dû l'amener. »«
Oh, et la soupe pour ce soir, dit Jourdan.
On aura faim en rentrant, voilà ce que c'est.
On est venu voir ton étalon, Karl. »
Karl les fit passer par la petite porte intérieure. En suivant le couloir, on sentait peu à peu venir vers soi la chaleur animale de l'écurie et l'odeur de l'herbe piétinée.
« Il y a deux marches, dit Karl, attention. »
Après les marches, le pied se posait sur un sol souple, fait de paille et un peu juteux. Il fallait habituer ses yeux à l'ombre. L'étalon était comme une lumière. Le jour de l'œil de bœuf glissait sur son poil. On voyait peu à peu les contours de la bête. Elle était dans une boîte de planches solidement étayée, étroite à ses flancs, et fermée par derrière par deux gros troncs d'arbres. C'était un cheval noble. Toute l'encolure dépassait les planches. Il reniflait le râtelier. Le mou de son museau était extrêmement mobile. Il ne mangeait pas. De temps en temps, il retroussait sa lèvre et, d'un coin de dent, il tirait deux ou trois poils de fourrage. Il mâchait. Il gémissait comme une femme. Il crachait la petite boule verte dans l'herbe. Il frappait du sabot de devant. Il relevait deux ou trois fois l'encolure. Il secouait la crinière comme s'il était à courir dans les libres prairies. Il frissonnait tout entier.
La force coulait dans sa peau et ses muscles. Il était ébranlé comme le lit d'un torrent qui porte soudain trop d'eau. Il ruait d'un grand saut des deux sabots de derrière. Il frappait du fer les troncs d'arbres. Il gémissait encore tout doucement pour lui-même. Karl s'approcha. « J'ai été obligé de tourner ce morceau d'arbre, dit-il. Quand on l'a coupé, la hache s'est cassée dedans. Elle y restait. Chaque fois qu'il frappait là-dessus, ça faisait des étincelles. »
Vous avez un beau cheval, dit Bobby.
Oui, dit Karl. Il est gras de semence, il réussit toutes les saillies.
Je veux dire, dit Bobby, qu'il est très beau. Beau en parlant de la beauté.
Jourdan allait dire pardon. Il se retint. Il aimait mieux que ce soit Karl qui le dise. Karl s'était frotté le crâne avec la paume de sa main.
Oui, dit-il. Il est beau, comme vous dites. Et encore.
« Vous ne l'avez pas vu en plein jour. Il a un chanfrein pointu et long comme une feuille d'iris. »«
Feuille d'iris ?» dit Bobby étonné.
« Oui, monsieur, » dit Karl. « Si j'entends bien, » dit Bobby, « il a le devant du visage allongé, plat, brillant et pointu, avec la pointe placée juste entre les deux naseaux. »«
Juste, » dit Karl, un peu haletant. « Vous êtes connaisseur ?»«
Non, » dit Bobby. Et il laissa s'établir le silence.
« Voilà, » dit Karl, et il était haletant.
Il était toujours haletant et bouleversé. Quand il parlait de son étalon, il se passa un bon coup de paume de main sur le crâne.
« C'est un signe de race, ça. Et puis, le garrot trouble. J'appelle le garrot trouble quand les muscles ne sont pas allongés, mais qu'ils font un peu la boule sous la poignée des omoplates. » Je ne veux pas parler de ce qu'ils ont, vos gros chevaux, et qui est là, il se toucha sa propre poitrine, et qui n'est que le bourré en avant, comme on dit, et ça vient de ce qu'il tire avec le collier. Et c'est de la renforçure, mais de la fausse renforçure. Non, ce que je veux dire, c'est du trouble. Il répéta le mot en le faisant trembler dans sa bouche. Du trouble, c'est une force naturelle, une force cheval.
Oui, dit Bobby.
« Alors, tu sais ce que c'est au juste ?»«
Non, » dit Karl. Bobby se mit à sourire et, ouvertement, il cligna de l'œil vers Madame Karl et vers le fils et vers Jourdan, et il s'installa en face de Karl avec un petit rire muet.
« C'est, » dit Bobby, « tu as vu des têtes de coquelicot ?»«
Oui,
c'est gros comme le pouce et puis ça s'ouvre, et peu à peu il en sort une fleur grosse comme le poing. »
« Oui, ce qu'il a, ton cheval,
il dit le reste tout doucement, c'est la graine des ailes. »«
Oui, » continua Bobby dans le silence et toujours doucement,
« il en sortira deux grandes ailes blanches et ce sera un cheval avec des ailes. Et il fera des enjambées comme d'ici au jas de l'érable et il galopera à 10 mètres au-dessus de terre et on ne pourra jamais plus l'atteler, ni lui, ni ses fils, ni les fils de ses fils. »
Donc voilà, voilà ce Pégase qu'a inventé le poète Jourdan. Et le paysan, bien sûr, il était émerveillé, il était fier de son cheval. Mais alors là, si en plus il va lui pousser les ailes, ça c'est extraordinaire. Et maintenant, il se dirige vers la troisième ferme. En approchant de chez Maurice, ils entendirent des cris. C'était des cris d'hommes. On avait allumé un fanal dans la cour. Jourdan arrêta devant le portail avant d'entrer. Le fanal était posé là-bas, près du hangar. Il éclairait l'échafaudage d'un travail à ferrer les bœufs. Trois hommes penchés, presque sans mouvement, dans la cage de bois, un homme accroupi et qui criait. À la limite de l'ombre, une femme debout, un enfant dans ses bras. Bobby sauta de la voiture et courut. « Qu'est-ce que c'est ? » dit-il.
« Il s'est défait les reins, » dirent-ils.
« Écartez-vous, » dit Bobby.
Jourdan arrivait. « C'est mon cousin, » dit-il. « Laissez-le faire. »«
Si celui-là me touche, je le tue, » cria l'homme.
On lui avait attaché les bras à la barre basse du travail. Il était vieux et poilu, il soufflait. Il avait des yeux féroces. Puis il devenait mou et tendre avec des yeux d'enfant. Il criait « Tu as bel air pour me tuer, laisse voir. »
Bobby entra dans l'échafaudage. « Détachez-le, ne le touchez pas, laissez-moi. »«
Laissez-le, » dit l'homme.
Il était étendu par terre.
« Là, »
demanda Bobby. Il lui toucha les hanches. Non. Là, il lui toucha le moignon de l'omoplate. L'homme hurla.
Ah, dit Bobby, c'est aussi dans la graine d'aile que tu as mal, toi.
Il se redressa. Donnez-moi un fichu, une écharpe, une chose longue et souple, n'importe quoi.
Ça, dit l'homme, il lui donna un foulard.
Oui. Entre ici, Jourdain.
Bobby avait passé le foulard sous le bras de l'homme. Il donna les bouts du foulard à Jourdain.
Tiens ça, dit-il, et reste tranquille.
Un homme, demanda Bobby en se tournant vers les autres.
Un homme s'avança. Tiens-lui les jambes, pas plus.
Tu vas me faire mal, demanda doucement le malade.
Je vais te guérir, dit Bobby.
Il regarda Jourdain. Quand je dirai hop, tu tireras en l'air.
Il prit la main du malade, il la serra au poignet.
Tiens bien les jambes.
Il cria hop. Il tira le bras vers lui. Jourdain tira le foulard en haut. L'homme hurla et se renversa en arrière.
Il ne s'était pas défait les rênes, dit Bobby. Il s'était démis les poils. Ça arrive.
Il ne bouge plus.
Allez chercher de l'eau-de-vie.
Portons-le dans la maison.
Attention, dit Bobby. Prenez-le par les pieds. Moi, je le prends aux épaules, en avant.
Comme ils entraient, la vieille femme se mit les mains sur la tête. Elle allait crier. Elle ouvrait déjà la bouche.
Il est guéri, dit Bobby.
On ne le connaissait pas, mais il disait de bonnes choses. Il y riait.
Devant le feu, dit Bobby, et maintenant, de l'eau de vie pour lui et peut-être aussi pour nous.
C'est mauvais d'entendre crier l'ancêtre.
Oh, pour l'ancêtre, dit la vieille femme, il l'est.
La jeune femme regardait sans rien dire. Un petit garçon était venu s'abriter à son ombre. Les hommes s'essuyaient le front. Le malade devant le feu semblait mort.
Jacou, gémit la vieille pendant que sa main tremblait dans le placard et faisait teinter la bouteille.
Il va revenir, dit Bobby.
L'homme étendu ouvrit les yeux. L'enfant de pute, dit-il.
C'est moi, dit Bobby.
Il se pencha vers lui. Il lui tendit un verre de fine.
Bois.
Bouge tes doigts.
L'homme bougea ses doigts.
Bouge le poignet.
L'homme bougea le poignet.
Le coude.
L'homme fit aller son coude.
Maintenant, dit Bobby, pour l'épaule, il faut attendre jusqu'à après-demain. Tu n'as plus mal?
Oh, le souvenir, dit l'homme.
Alors, dresse-toi et assieds-toi.
Il l'aida à se relever. Un des hommes avait avancé une chaise.
Alors, Jacques, dit Jourdain.
C'est toi, Jourdain?
Alors, tu vois,
ça va mieux.
Oui, mais, dit Jacques, je voudrais savoir qui vous êtes, vous.
L'enfant de pute, dit Bobby.
Donc voilà, donc le poète, non seulement il est poète, mais il est guérisseur. Et on pense à une scène de la Bible, bien sûr, « Lève-toi et marche », c'est un véritable miracle. Donc voilà les rencontres des paysans du plateau Grémone que Jourdain est fier de faire découvrir à son cousin Bobby.
Merci Jean-Louis Caribou, et puis on donne rendez-vous donc aux auditeurs pour une spéciale la prochaine fois, mercredi 18 octobre, avec la compagnie de la troupe de théâtre Les Baladins de la Joëlette sur cette antenne 99.3, le mercredi 18 octobre à 16h. Oui?
Oui, c'est ça.
Voilà.
Oui. C'est avec quatre extraits. Personnes qui font partie de la troupe, comme il a été dit, Les Baladins de la Joëlette, qui est une troupe de théâtre de l'association Handicap Évasion 04, et qui ont joué des adaptations que j'avais écrites d'après l'œuvre de Giono, une adaptation du film Crésus, une adaptation du roman Regain, et une adaptation du roman Que ma joie demeure. Et la prochaine fois, nous donnerons un aperçu avec trois scénettes, l'une extraite de Crésus et deux autres extraites de Regain.
Merci Jean-Louis, bonne journée.
Merci.
Au revoir.